avons entendu hier et aujourd'hui de très riches interventions s'intéressant aux échanges intellectuels franco-hongrois, qui plaçaient souvent au cœur de leurs réflexions l'influence qu'un certain écrivain français ou l'esprit français en général pouvait exercer sur un poète hongrois en particulier. Tout en restant dans le même esprit d'idées, je me proposerai de vous présenter ici un autre versant de ces interactions intellectuelles, principalement littéraires, entre nos deux pays, et de les présenter du point de vue de la réception. La réception dans un sens qui se veut assez large, c'est-à-dire qu'il comprend aussi bien le public érudit que le public pas nécessairement très savant. Il s'agira donc d'examiner les modalités selon lesquelles un groupe d'intellectuels français, principalement aussi avec une participation hongroise, s'est proposé de faire connaître la littérature hongroise en France, sans doute avec l'intention de remédier notamment à cette fameuse indifférence que Karinthy déplorait tellement auprès d'Aurélien Sauvageau. Et ainsi, je m'intéresserai à un segment assez particulier de cette activité de popularisation qui a choisi de prendre le chemin de la diffusion large de la radio. Donc j'ai travaillé, pour mon travail, j'ai utilisé les archives de la radio française et les différents fonds d'archives nationales en France, principalement pour examiner comment est-ce que cette diffusion et cette popularisation de la culture hongroise s'est déroulée en France dans une tranche d'âge que j'ai définie après la Deuxième Guerre en allant jusqu'à les années 60. Je fais cette présentation avec le but à peine voilé de démontrer que le cercle auquel en fait on doit cet effort inlassable a été fortement animé par Aurélien Sauvageau, qui reste souvent un peu à l'abri, donc on ne trouve pas forcément partout et tout le temps son nom, mais par des liens familiaux que je vais essayer de vous démontrer tout à l'heure, on va quand même se rendre compte qu'il s'agissait d'un cercle d'intellectuels français qui travaillait dans son sillon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette activité de popularisation qui s'est manifestée à travers les possibilités offertes par la radio a pris trois voies différentes. Dans un premier temps, il s'agissait d'émissions folkloriques qui se proposaient de présenter au public français le folklore de différents pays de ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, enfin maintenant aussi, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est pour élargir un tout petit peu les notions. Les archives nous révèlent que moins de 4 mois et demi après la libération de Paris, on a commencé un vrai travail de mise en marche d'un réseau presque entièrement détruit pendant la guerre. Excusez-moi. Et donc le programme national qu'on pouvait capter sur initialement la seule et unique chaîne radio qui s'est après divisée en plusieurs a été complété par ce qu'on a appelé le programme parisien qui comprenait de nouvelles séries conçues sur un mode volontairement plus facile. Donc c'était des émissions de distraction dans le cadre desquelles on faisait écouter au public et de la musique et de la poésie, mais essentiellement du folklore de ces pays qu'on a choisi comme digne d'être présenté au public français. Et donc j'ai trouvé dans les manuels de programmation de la radio une certaine Madame Sauvageau qui a travaillé sur l'émission folklorique hongroise. Et il y a quelques émissions qui nous sont restées disponibles, malheureusement pour l'instant j'ai pas réussi à les écouter, mais il reste au moins quelques notes qu'elle a probablement prises lors de l'assemblage de ce programme. Donc il s'agit de chansons populaires hongroises comme Tavasisel, etc., des mélodies assez connues qui ont été passées sans aucun commentaire. Donc l'important, c'était vraiment de donner une idée au public français de ce que c'était le folklore hongrois. Ces émissions ont eu lieu principalement en 1946-47. Après, j'ai pas retrouvé d'autres traces, probablement aussi parce qu'elles ont été converties dans la deuxième voie que je me propose de vous présenter ici, qui a pris la forme d'une émission vraiment littéraire et qui s'appelait Aspects de la poésie hongroise. Il s'agissait d'une émission qui a été animée par Roger Richard, qu'on connaît tous bien, qui appartenait également à ce que j'ai défini comme le cercle intellectuel de Sauvageau. Cette émission a été émise sur Paris Inter. Il s'agit au total d'une dizaine d'émissions d'une heure environ, qui ont été diffusées entre 1949 et 1952. Il était un peu difficile pour moi de savoir s'il s'agissait d'émissions mensuelles ou quelle était la fréquence avec laquelle on pouvait avoir accès à cette présentation de la poésie hongroise, parce que souvent dans les archives, on manque de dates, donc on retrouve juste l'émission avec un petit descriptif. En revanche, on a la chance de pouvoir écouter une certaine partie de ces émissions, et c'est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte qu'il s'agit de programmes établi avec un véritable souci artistique. Donc, c'est pas uniquement une présentation sèche avec uniquement une présentation des poètes qu'on a choisi à mettre en relief. Il s'agissait de faire venir des acteurs professionnels qui lisaient à haute voix les poèmes en question, et on pouvait entendre en introduction et en conclusion une certaine présentation générale en les plaçant dans le contexte historique et littéraire auquel ils appartenaient. Et en fait, en tombant sur le nom de Roger Richard, je me suis demandé pourquoi est-ce que Sauvageau n'a pas participé à cela plus activement, ou pourquoi est-ce qu'au moins on ne trouve pas de traces de son nom. Et j'ai compris tout à fait par hasard qu'en fait, il prenait une véritable part à l'organisation de ces émissions, sans pour autant être nommé, parce que en fait, cette période correspondait à l'époque où il était relativement mal vu en France, dans certains cercles. Et je pense qu'il voulait garantir le succès de ces émissions en ne pas se mettant en avant. Roger Richard, dans une de ses émissions, mentionne son nom en disant que le programme doit beaucoup à Sauvageau, mais qu'il a voulu rester un peu à l'abri. En revanche, il y a bien sa femme, sa deuxième épouse, qui a participé à l'élaboration de ces émissions. Et ça, on l'apprend tout à fait par hasard, parce que, en fait, l'une des personnes qui fait la présentation des poèmes s'appelle Madame Juliette Demaître. Et cette Juliette Demaître, on apprend qu'elle a été actrice à l'Odéon, très connue, une femme très belle. Et dans les archives de Twisch Collegium, où j'ai fait mes études, j'ai trouvé une lettre que Sauvageau a adressée au directeur du collège en 1964, donc quand même une décennie après ses émissions, en le remerciant pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé à l'occasion de sa venue en Hongrie. Et il remercie cet accueil en son nom et au nom d'une certaine Madame Juliette Demaître. Donc comme ça, les liens sont faits et la boucle est bouclée. Donc on comprend que la Juliette Demaître, qui a participé à la popularisation de la poésie hongroise à la radio, était la même Madame Juliette Demaître qui était la deuxième épouse de Sauvageau. Dans le cadre de ces émissions, je voulais voir quels étaient les poètes qui ont été choisis. Alors, il s'agit d'un choix assez sélectif qui correspond plus ou moins à ce qu'on retrouve dans les souvenirs de ma vie hongroise comme préférence de Sauvageau, ce qu'on retrouve aussi comme ses poètes préférés depuis son fond à Aix-en-Provence. Donc évidemment, Attila Yogev, il y a trois émissions consacrées à lui. Il est carrément nommé le Villon du Danube, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour mon intervention. J'ai trouvé très touchante cette dénomination. Et il s'agit d'un choix de poèmes parmi ses poèmes les plus connus, donc Madame Kepesh a également évoqué. Mais à Paris, où j'ai fait là, on peut également entendre des poèmes de Radnóti Miklós, de Petőfi Sándor, Arany János et bien évidemment Ady Endre, qui, comme on le sait bien, était le grand idole de Sauvageau. Alors on est un peu dans une situation délicate parce que seules les émissions sur Ady Endre sont indisponibles pour l'instant dans les archives de la radiodiffusion française. Donc on n'a pas réussi à apprendre plus de choses sur l'attirance de Sauvageau et de ses élèves pour ce poète hongrois. Et donc, une fois que cette série de 8-10 émissions terminée, elle s'est transformée dans une autre chaîne d'émissions qui s'appelait « Prenez garde à la poésie ». et qui, de manière assez métaphorique, a débuté en 1956. Donc la première émission de ce programme Prenez garde à la poésie s'est consacrée au poète hongrois. Là, on a vraiment un large panorama de tout ce qui est la poésie hongroise. Donc Petőfi, Adi, Babits, József Attila, Illyés Gyula, Kassák, Lajta László. On a même de la musique, donc Kodály, Bartók. Vraiment un large éventail de tout ce qu'on voulait montrer, je pense, au public français en tant que richesse de la culture hongroise. Et une deuxième suite d'émissions qui s'appelait Poésie sans passeport, qui s'est aussi intéressée à la poésie hongroise, mais dans laquelle on trouve beaucoup plus de matières folkloriques, donc des ballades hongroises traduites, notamment la fameuse On a tué un jeune homme pour ses 50 ans, Megöltek egy legényt 60 forintjáért, et aussi d'autres ballades, pas forcément populaires, mais écrites notamment par Arany János. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ces émissions, c'est que ce n'est plus Roger Richard qui les assemble, on dit juste les amis d'Aurélien Sauvageau, donc ils restent tous un peu anonymes. En revanche, le travail reste à faire d'explorer quelles étaient les modalités de l'assemblage de ce programme, et surtout, je pense que la question centrale, c'est de savoir pourquoi qu'est-ce qui pouvait animer le choix de ces poèmes en particulier. Moi, j'ai réussi à reconstituer par rapport à l'un des poèmes de József Attila qui a été cité par cette madame Juliette Demetre, que ça correspondait à une traduction de Sauvageau, donc ce n'était pas la traduction de Roger Richard. Mais il reste à faire, évidemment, dans un cadre recontextualisant, à voir à quel point est-ce que les traductions utilisées correspondaient à celles de Sauvageau, est-ce que c'était les traductions de quelqu'un d'autre, et surtout pourquoi est-ce que les poèmes choisis étaient particulièrement ces poèmes-là. Et donc la troisième voie dont j'ai promis de vous parler a pris la forme d'émissions destinées à l'étranger. Donc en fait, les deux premières voies dont on a parlé étaient des émissions diffusées en France pour le public français, mais ce même cercle qui animait les présentations de la culture hongroise a également réussi à monter une émission qu'on essayait de diffuser depuis Paris vers la Hongrie, excusez-moi. Et donc cette émission s'inscrit dans un cadre plus général d'autres émissions qui ont débuté en novembre 1944, au moment où le général de Gaulle a confié à Philippe Desjardins le soin de réunir des journalistes susceptibles d'encadrer des sections, ce qu'on appelait linguistiques. Donc la section hongroise, elle a connu une carrière relativement longue. Elle a existé entre 1945 et 1975, donc pendant une trentaine d'années, et elle s'inscrit donc dans cette série d'émissions françaises qui ont été destinées aux pays appartenant au bloc soviétique. Donc il y avait des émissions en d'autres langues aussi, il y avait en polonais, en tchèque, slovaque, serbo-croate, bulgare, grec et en roumain. Dans les interviews à disposition, donc on a fait un certain nombre d'interviews avec des journalistes qui ont participé à l'élaboration de ces émissions. Et donc en fait, on retrouve un commentaire assez particulier qui nous fait savoir qu'il n'existait pas de politique radiophonique de la France à cette époque destinée aux pays de l'Est. Et que même il n'y avait pas de véritable réflexion globale sur la manière dont on pouvait faire connaître la culture occidentale et tout ce qui se passe, surtout les actualités en Europe occidentale, à ces pays qui sont restés de l'autre côté du rideau de fer. En revanche, cette émission hongroise a été encadrée pendant une quinzaine d'années par Sauvageau, et ça c'est bien public, donc on retrouve son nom. Et Sauvageau a fait un grand souci pour que ces émissions prennent une double voie. D'une part, présenter les actualités, surtout culturelles françaises, au public hongrois, et d'autre part, d'une manière un peu plus raffinée, de faire comprendre au public hongrois qu'en Europe occidentale, il y avait quand même des gens qui s'intéressaient à eux, enfin à nous, et qu'on n'était pas si isolés que ça d'un point de vue du transfert de l'information. La raison pour laquelle, pour nous, Hongrois, il est important de savoir que c'était Sauvageau qui menait ces émissions, c'est que ces émissions étaient traduites en hongrois. Donc en fait, depuis Paris, on lançait à travers des émetteurs, je me suis renseignée sur les détails techniques de la radiodiffusion, c'était assez passionnant. Donc on a compris que en fait, Sauvageau et les gens qui travaillaient avec lui parlaient en hongrois, donc les textes étaient rédigés, les infos étaient rédigées en français, on les traduisait en hongrois. Et les archives nationales, les fonds correspondants, nous révèlent que c'était des traductions très très supervisées par le Quai d'Orsay. Donc on ne pouvait pas raconter tout ce qu'on voulait. Et il arrivait souvent que le Quai d'Orsay bloquait certaines émissions en raison de la crainte que ça pouvait entraîner, enfin la crainte que ça pouvait entraîner des conflits dans la relation des deux pays, surtout avec l'Union soviétique. Il est très intéressant de voir que les journalistes qui ont participé à l'élaboration de ces émissions, dans leur mémoire ou dans les interviews qu'on a fait avec eux, n'ont absolument pas compris qu'ils étaient supervisés par le Quai d'Orsay. Il y a même un certain journaliste avec qui on a fait un interview remarquable dans les années 90 qui confirme que le Quai d'Orsay s'intéressait absolument pas aux émissions hongroises et qu'il s'agissait de superviser uniquement les textes émis en langue russe. En consultant les fonds dans les archives nationales, il était quand même assez impressionnant de voir le tampon écarlate secret sur tout ce qui était fonds hongrois. Donc on voit bien aussi comment les Russes essayaient de brouiller les émissions. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance qu'a eu par exemple la BBC ou la Radio Europe Libre d'avoir plusieurs émetteurs, parce que les émissions vers la Hongrie ne pouvaient compter sur deux émetteurs et ils étaient constamment brouillés. Donc finalement, on ne sait pas vraiment si l'effort de Sauvageau et de ses autres intellectuels a abouti auprès du public hongrois. Il y a aussi également des études qui mesurent l'impact au niveau d'écoute, en fait. Donc on a essayé de savoir quelle était l'étendue du public qui pouvait capter. Mais d'après ce que j'ai retrouvé dans les archives françaises, on n'a jamais réussi à recoter des chiffres venant de la Hongrie. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y en a beaucoup qui viennent de Pologne, qui viennent de la République, enfin de Tchécoslovaquie, mais rien depuis la Hongrie. Donc ça reste à être examiné. Et donc pour conclure, parce que je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, on voit bien que dans ces circonstances et conditions particulièrement tendues et difficiles d'un point de vue historique, on voit comment le réseau intellectuel animé par des diplomates d'une part, mais surtout par des intellectuels français d'autre part, on a essayé d'utiliser toutes les possibilités qui étaient à disposition pour faire connaître d'une part la langue et la culture hongroise auprès d'un public français aussi large que possible, et d'autre part, de faire comprendre aux Hongrois qu'on s'intéressait à eux et qu'il y avait un véritable lien au moins intellectuel sur lequel ils auraient pu compter si les émissions avaient abouti. Bien évidemment, l'étude détaillée de ces émissions permet et permettra de comprendre comment est-ce que cette activité de popularisation s'est déroulée de manière très précise. Cette étude en fait de l'histoire de ces trois types d'émissions hongroises s'inscrit dans un cadre plus large d'études d'interaction entre les deux pays sur lequel je suis en train de travailler. Dans une perspective historique, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'avec 56, tout se bouleverse et on consacre une part beaucoup plus grande à la Hongrie au sein de la radio française. Notamment, on émet des cours de langue qui sont un format assez particulier, aussi avec des acteurs, donc des cours de prononciation et de linguistique, qui étaient, à mon sens, destinés aux Hongrois réfugiés en France. Pour leur donner une première possibilité de s'adapter avec l'apprentissage de la langue. Et je voudrais aussi souligner, comme dernière remarque, que dans ce contexte de pleine guerre froide, l'émission hongroise a été malheureusement victime, comme celle des autres langues, donc roumain, serbe, slovaque, etc., à la mesure prise par le président Giscard d'Estaing qui en 1974 a déclaré que la guerre froide était terminée et que ces émissions, qui étaient le fruit malsain de cette guerre froide, devaient absolument toucher à leur terme. Donc on a suspendu les émissions. Je crois bien que ça s'inscrit aussi dans un cadre historique beaucoup plus général, et donc ça vaudra la peine d'étudier tout ça dans un contexte plus global. Donc malheureusement, à partir de janvier 1975, on a liquidé l'émission Voise destinée à l'étranger, et je n'ai pas trouvé de traces, même pas de reprise ou d'une tentative de reprise par la suite. Je vous remercie de votre attention.